Bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Ici, on aborde des solutions concrètes et durables pour vous permettre de créer des intérieurs responsables. Que vous soyez architecte d'intérieur, décorateur, designer ou tout simplement à la recherche de solutions inspirantes pour votre home sweet home, vous êtes au bon endroit. Je suis Coralie, moi-même décoratrice et architecte d'intérieur depuis 10 ans. Amoureuse de la nature et des grands espaces, je rêve d'un monde où la consommation devient intelligente et la créativité au service de la planète. Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable ? C'est parti pour un nouvel épisode. Hello les Greeners, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode où je reçois Morgane Léonard de l'atelier Léonard et des matériaux Técaire. Alors, on sort un petit peu du cadre habituel de la maison ou des bureaux puisqu'on va cette fois-ci explorer l'univers du retail design et de l'éphémère et notamment la décoration de vitrines. Et oui, on n'en parle pas assez mais finalement, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là dans ces aménagements d'espace à la durée de vie assez courte? Eh bien, Morgane va nous expliquer son point de vue, son historique et surtout nous parler des matériaux Técaire qu'elle a imaginés pour répondre à des problématiques de durabilité dans ces aménagements d'espace. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Morgane, bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien, je te remercie.
Top. Écoute Morgane, tu es là aujourd'hui pour parler matériaux, puisque tu es à l'origine d'une jeune marque portant le joli nom des matériaux Técaire, qui a créé donc une matériothèque, comme son nom l'indique, mais éco-responsable et dédiée principalement aux designers et merchandisers. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du projet, le point de départ de cette solution ?
Alors, le point de départ vient de mon métier initial qui est celui de designer retail, donc spécialisé dans tout ce qui est métier du commerce, du merchandising et de la scénographie. Et donc j'ai une agence de design qui s'appelle Atelier Léonard depuis 12 ans. Et en pratiquant régulièrement la recherche de matériaux et en essayant d'implanter des matériaux éco-responsables dans les projets, je me suis rendu compte que en fait, c'était très compliqué en fait, pour les marques de les introduire pour nous et pour eux, déjà parce que la veille matière prend énormément de temps. Deuxièmement, les métiers en général, enfin, ces projets-là vont très vite. C'est difficile de partir sur un matériau qu'on ne connaît pas bien ou qu'on n'a pas utilisé parce que des fois sous un mois, on doit produire quelque chose ou sous 6 mois. Et si on n'a pas connu le matériau avant ou si on n'a pas développé avec la marque qui a produit la matière au préalable quelque chose, c'est compliqué de prendre des décisions. Donc les matériaux Técaire viennent de ce problème où finalement on s'est dit on va aider les gens comme nous, donc les agences de design qui font le même métier que le nôtre, mais également et surtout nos clients, donc qui sont les marques principalement de cosmétiques, de parfums, de spiritueux, mais aussi quelques marques autour de la lunette et matériel médical, en fait, à leur apporter en fait directement des solutions quand on leur crée des projets, mais aussi quand ils travaillent avec d'autres agences, parce que ça arrive très souvent, hein. Par exemple, L'Oréal, ils ont une multitude d'agences, ou pas comme Rémy Martin. L'idée, c'est de les accompagner aussi sur des projets qu'on n'a pas créés avec l'agence, mais avec les matériaux Técaire pour leur proposer des alternatives, qui sont des matériaux éco-responsables qu'on a sourcés, qu'on a rencontrés, etc.
D'accord. Donc, principalement auprès des merchandisers, si j'entends bien, avec le côté solution rapide et efficace. Donc, on est plutôt dans l'éphémère. Est-ce que ça répond à des besoins toujours conscients de la part des retailers ?
Alors, oui. Alors, il faut savoir que, bon, déjà, la plupart des designers sont quand même assez préoccupés par l'éco-responsabilité depuis longtemps, mais n'ont pas vraiment de solution au quotidien, parce que dans les groupes, il y a beaucoup aussi de... c'est pyramidal en termes de décisions, etc. C'est compliqué. Et puis aussi, ils ont des problématiques d'aspect de matériaux. Parce que quand on est dans des métiers du luxe, on doit avoir des matériaux qui ont une certaine profondeur, qui ont un certain aspect premium ou luxe. Et dans les matériaux éco-responsables, c'est pas si évident que ça à trouver. Et également sur les codes couleurs, parce que on peut pas faire n'importe quoi. Dans plein de marques, ils ont des codes et des chartes qui sont très précises, et on peut pas travailler avec n'importe quel matériau juste parce qu'on l'aime bien. Il faut soit développer des matières C'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, c'est pas forcément des solutions rapides, parce que l'idée, c'est que par exemple, quand on travaille avec un groupe comme Chanel ou L'Oréal, on peut travailler en amont de plusieurs projets en se disant que bah, en fait, c'est un matériau dont ils ont régulièrement besoin, et au lieu d'arriver à la dernière minute, se dire bah, on peut développer des matériaux avec eux en se disant bah, ce matériau-là, il est super, mais actuellement, on n'a pas le coloris, donc on peut développer ce coloris avec eux de façon à ce que le jour où les projets arrivent, ils aient la solution en main. Donc, ça peut aussi arriver très en amont, avec une veille de matériaux qu'on leur propose régulièrement et qui soit dans la recherche et développement, en fait. Et donc, ils sont très préoccupés, pour revenir à ta question initiale, parce qu'ils ont aussi des gros enjeux RSE quand même dans les groupes. Ils sont très challengés. De plus en plus, ils ont des personnes qui sont dédiées aux matériaux et à la recherche, en fait, de fabricants, de fournisseurs qui vont les aider à grandir sur ce côté-là. Donc, ils sont même très, très concernés par tout ça, mais c'est compliqué pour eux parce que c'est une grosse machine à bouger.
D'accord, ok. Et alors justement, il me semble qu'avec les matériaux Care, vous avez développé et un peu anticipé tout ça avec des box matières qui permettent justement de prendre un peu le problème des retailers aussi à l'envers, c'est-à-dire, tu vas nous l'expliquer justement, mais de réfléchir d'abord par la matière et non pas par le résultat attendu finalement. C'est bien ça.
Exactement. Donc les premières box matières qu'on a créées, elles sont plutôt dédiées au métier de la scénographie et du merchandising autour des vitrines et des décors. Sur deux thèmes qui sont très récurrents dans les groupes de façon générale et même les plus petites marques, qui sont l'eau et la glace, parce que dans les thèmes de Noël, on peut avoir la glace, mais dans les thèmes du printemps, de l'été, etc. Et le thème de Noël et du Nouvel An chinois, qui sont des thèmes qui sont très récurrents. Et donc, dans les matériaux éco-responsables, c'est pas évident de trouver tout de suite des matériaux. Quand on en cherche sur Internet, concrètement, on n'en trouve pas. C'est pas si facile que ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on présente plusieurs matériaux dans une box sous le même thème. Et on vend, en fait, du coup, la box, les box. Comme ça, ils peuvent travailler avec ces box pour créer leur vitrine de fin 2024.
Alors, par exemple, pour Noël, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une matière qui, jusque-là, était régulièrement utilisée pour la glace, pour la neige, peut-être, et qui ne soit pas forcément éco-responsable, et quel est aujourd'hui le moyen de remplacer ça par une matière plus éco-responsable ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ?
Alors, pour l'eau et la glace, principalement, parce que la boîte Christmas, elle est en cours de construction. Pour l'eau et pour la glace, par exemple, on va régulièrement utiliser tout ce qui est paillettes, des matériaux pailletés ou des fausses neiges. Et donc, c'est là que, en fait, le transfert, il va être compliqué, parce que notre travail aussi, c'est de faire comprendre aux marques qu'en fait, les matériaux qu'ils utilisent actuellement n'existent pas, le pendant n'existe pas en matériaux éco-responsables. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'actuellement, tous les matériaux éco-responsables étaient de trouver un marché. C'est-à-dire que, comme vous en avez déjà rencontré plusieurs sur votre podcast, en fait, je vais prendre l'exemple de la suédine, par exemple, qui est régulièrement utilisée dans le merchandising. La suédine, c'est un matériau qui est doux, qu'on va utiliser régulièrement pour les bijoux, pour le frottement, pour pas que ça abîme le bijou. Mais en matériaux éco-responsables, on n'a pas en fait le pendant. Parce qu'en fait, actuellement, les matériaux éco-responsables, ils travaillent principalement pour l'architecture intérieure ou l'architecture, pour la bonne raison que forcément, le marché est plus gros, enfin actuellement en tout cas. Et que et nous, finalement, on vient en termes un peu en traducteur, parce que nous, on va essayer de trouver des matériaux qui ont des propriétés similaires, mais qui ne vont pas être nécessairement avec le même aspect que la suédine.
D'accord.
Parce que dans les matériaux éco-responsables, on n'a pas effet suédine, on n'a pas des effets similaires au retail. Et par contre, ce sont des choses qu'on développe, qu'on commence à développer, nous, avec certaines marques, notamment avec Poreva qui recycle le cuir.
Ok.
Et pour l'eau et la glace, donc nous, on va trouver des matériaux qui réfèrent à l'eau et la glace, mais ils ne seront pas un pendant d'un matériau existant, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de marque qui a consacré de l'argent en R&D pour faire ça. Mais nous, c'est un peu l'idée qu'on aimerait aussi développer dans les marques. Donc, par exemple, il y a des groupes que je ne peux pas citer qui ont des cellules matériaux. L'idée, c'est de leur dire, eux, ils viennent avec des demandes.
de matériaux justement dont ils ont besoin de pendants, et avec nos partenaires en fait développer faire de la R&D pour que en fait on puisse pallier à ça, parce qu'il y a plein de matériaux du type la paillette etc. Ben, ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin que ça brille, quoi.
D'accord.
Mais on n'a pas trouvé encore de solution. D'ailleurs, si quelqu'un a une solution qui nous entend...
C'est l'occasion. Voilà. Donc, si j'entends bien quand tu parles de pendant, dis-moi si j'ai bien compris, mais en gros, il y a la caractéristique technique. Donc, tu parlais tout à l'heure du frottement avec le bijou, etc. Mmh. Donc, il y a quand même des réels besoins techniques, on va dire, de la matière à respecter. Il y a l'aspect esthétique. Et c'est là que tu rentres en jeu, notamment sur aussi une notion un petit peu peut-être... pas psychologique, mais tu revois un petit peu... Les besoins ancrés qui sont peut-être à retravailler avec un bon coup d'épée pour dépoussiérer tout ça. Parce qu'en fait, là où on attend de la paillette à Noël, peut-être que demain, on n'en aura plus, mais on sera sur quelque chose de plus nouveau, plus innovant, différent, mais tout aussi intelligent. Qui ne soit pas forcément brillant, mais simplement voilà. Éco-responsable et différent.
Exactement. Et donc, il y a certaines marques qui sont prêtes à ça et d'autres qui ne peuvent pas encore se le permettre parce que leur clientèle n'est pas prête. Voilà, on est quand même dans un monde où il y a quand même l'économie derrière tout ça. Il leur faut quand même des solutions à ces gens-là parce que dans tous les cas, ils vont utiliser la paillette. Sinon, si on ne trouve pas. Donc, c'est aussi ça qui est important. Et je pense que là, actuellement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de recherches de matériaux. Et c'est seulement qu'ils n'ont pas encore la demande aussi. Donc, c'est un peu aussi notre mission aussi. C'est l'idée que si on trouve des marchés aux matériaux éco-responsables qui sont naissants, parce qu'ils sont quasiment tous naissants, concrètement.
Oui, tout à fait. Ouais.
On va leur créer un marché. Et à partir du moment où on va leur créer un marché, ils vont vivre, survivre, pouvoir payer les certifications... payer des certifications et pouvoir de plus en plus en fait intégrer les grandes marques et être plébiscité pour plein de projets qui sont autour du merchandising et de la scénographie parce qu'ils auront ces aspects de matière qualitatifs, scintillants ou en tout cas qui auront l'effet recherché qui est hyper impactant, festif parfois, etc. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans dans les matériaux éco-responsables.
Oui, tout à fait. Oui, on est plus sur des aspects naturels, justement, des fibres un peu épaisses, des choses brutes. Là où tu parles certainement aussi d'un monde où on est quand même plus dans le luxe. Tout à l'heure, tu citais plutôt LVMH, etc. C'était pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins non plus. Ouais.
Exactement. Et puis, ils n'ont pas non plus les mêmes contraintes, notamment par rapport aux guides techniques et le fait qu'ils sont produits dans le monde. Donc ça c'est pareil, c'est difficile de dire à une marque, ça dépend des marques, hein. S'il y a des marques françaises qui produisent en France, c'est le meilleur scénario parce que là nous on a plein de marques qui sont capables de produire en France. Et par exemple si pour un guide technique, je vous donne un exemple, on travaille pour Rémy Martin, on fait des vitrines pour eux, des décors, etc. L'idée c'est que maintenant on puisse... pour eux et pour d'autres marques, quand on fait le guide technique pour le monde, ensuite chez eux, ils construisent ce qu'on a proposé en fonction des matériaux qu'ils trouvent, etc., tout en respectant en fait les valeurs de la marque, mais aussi les matériaux souhaités, donc mettons du gold, etc. Du coup, nous, en fait, l'idée, c'est que maintenant, on puisse proposer à ces marques-là en disant, quel que soit qui a fait la créa, parce que le but, c'est quand même de faire grandir les matériaux éco-responsables, que ce soit telle ou telle agence. Nous, on intervient, par exemple, à la fin du guide technique, s'ils ne nous ont pas appelé plus tôt, pour créer une page matière éco-responsable en se disant, nous, on a sourcé dans le monde des alternatives qui ont le même aspect de matière, par exemple, et ensuite, libre à chaque marché, de le faire ou pas en fonction de leurs moyens, en fonction des possibilités. Mais en tout cas, plus on donnera des clés, plus on donnera des billes et plus ils s'entraîneront en fait à utiliser, à voir si ça marche, quels sont les points bloquants, etc. Parce qu'en fait, c'est en éprouvant les choses aussi qu'on comprend quelles sont les limites là où on peut progresser et là où finalement on pensait que c'était compliqué, finalement ça l'est pas tant que ça. Ça dépend des contextes, mais il faut essayer pour savoir.
Oui, clairement. Donc ça veut dire que oui, en effet, il y a quand même cette contrainte monde donc, que tu cites. Ça veut dire que vous vous positionnez vraiment comme une sorte de service R&D externalisé sur des groupes avec des contraintes inhérentes à chaque pays, finalement, puisque autant sourcer des matériaux responsables en France, c'est déjà une contrainte, comme tu l'as souligné tout à l'heure, quand on est sur du retail design, parce qu'on n'est pas sur de l'archi, on n'est pas sur de la déco qui ne soit pas éphémère. Donc, ce n'est pas forcément le marché, pour l'instant, le plus plaisant pour les matériaux qui sont en train de se créer. Mais en plus, il faut penser à l'alternative Europe et autres continents qui éviteraient justement ce transport de la matière qui aurait pu être créée en France et du coup déglinguer le bilan carbone de la matière par le transport en fait.
Voilà, exactement. Bah, c'est l'idée. Voilà. Après, comme je dis, il faut éprouver parce que notre service il existe depuis juin 2022. On a encore plein de choses à éprouver avec les marques pour faire grandir les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble pour craquer le truc en fait, hein, c'est un peu ça. Mais en France, on a déjà plein de belles solutions qui correspondent aussi à des marques qui sont plus petites, parce que attention, il y a les groupes, mais on travaille aussi avec des marques qui sont plus petites ou des agences qui travaillent pour des marques qui sont plus petites et qui sont que locales. Et dans ce cas, là, il y a plein de solutions. Et quand on est sur des petits objets, on a moins besoin de normes, etc. aussi. Hein, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et d'ailleurs, pour rappeler, pour le dire aux fabricants et aux créateurs de matières qui nous écoutent, finalement, dans le métier du retail et du merchandising ou de la scénographie, il y a un marché. Il y a un marché.
Ouais.
C'est simplement que c'est un marché qui est très spécifique. Donc, il faut que des gens comme nous et des créateurs de ces métiers-là utilisent davantage, ou en tout cas essayent à chaque fois, au fur et à mesure du temps, de proposer ces matériaux pour que le rythme prenne et que l'habitude...
Ouais.
Voilà, exactement. Mais il y a vraiment un marché. Hein. Ils produisent des PLV, des vitrines tous les 3 mois, certaines marques qui peuvent être assez conséquentes, des décors, etc. Après, bien sûr, il faut proposer les bons matériaux en fonction de... Et le design qui permet de réutiliser certains éléments ou en tout cas de recycler. En tout cas, il y a un vrai marché.
Et alors justement, est-ce que tu peux nous dire déjà aujourd'hui à date combien de matières ça représente les matériaux técaires, qu'on se fasse une petite idée de ce que vous avez réussi à sourcer jusque-là?
Alors j'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on doit être autour de 80.
Ok.
Alors il y a les déclinaisons de couleurs.
D'accord.
Mais dans notre matériothèque, on source à la fois les matériaux comme on a pu trouver chez Amour Vivant, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette biennale qui était splendide, je vous enverrai des photos. On a eu la chance que Julie de l'équipe puisse y aller à Paris, qui est donc représentée des matériaux principalement, enfin, que éco-responsables, mais beaucoup aussi de matériaux qui étaient vraiment en devenir, enfin, qui étaient en recherche, qui n'avaient pas encore commercialisé. Et donc, on va autant sourcer ces matériaux-là parce qu'on va les suivre, mais aussi parfois les présenter parce qu'on a certains groupes qui ont de l'argent et qui sont capables aussi de dire ce matériau-là, il nous intéresse, on pourrait mettre un peu d'argent sous la table pour développer un matériau. Et là, dans ce cas, on fait grandir cette marque parce qu'elle a un client et que c'est l'occasion de développer la matière et de la vendre.
D'accord.
On peut à la fois avoir ces matériaux-là et on peut sourcer des plus petites marques, et aussi des plus industrielles, des plus low-tech, jusqu'à le pavé qui sont déjà bien distribués. En fait, on a vraiment un panel assez grand. Et pour nous, c'est très important justement de continuer à faire la veille et de sourcer ceux qui sont encore plus petits, qui sont dans la découverte de matière, parce que il y a des petites marques qui sont capables déjà de travailler avec eux parce qu'ils n'ont pas besoin de toutes ces normes, etc. Et puis aussi, on peut les présenter aux grandes marques parce qu'ils aiment bien savoir en fait ce qui va se passer. Et c'est important parce que du coup, ça va nourrir aussi les designers qui travaillent au sein des marques. Ça va les inspirer aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ça indique des choses sur la tendance. Et c'est important en fait qu'ils se nourrissent aussi de tout ça. Et ça, c'est un des services qu'on propose justement aux marques, c'est de faire leur veille en fait annuelle. Une veille matériaux éco-responsables, mais dans leur code.
Ok.
On peut bien sûr les nourrir sur qu'est-ce qui se passe, mais aussi leur apporter des matériaux en disant ça correspond à votre niveau d'exigence et on peut le développer en telle couleur pour vous, par exemple.
Est-ce que vous avez justement un cahier des charges pour valider une matière? Tu viens de nous dire que parfois c'est des matériaux assez naissants. qui sont encore un petit peu en cours de construction, entre guillemets. Est-ce que c'est un critère de se dire que ça peut ou pas faire partie d'un matériau fini? Est-ce qu'il y a des critères de responsabilité à respecter? Comment vous choisissez quels matériaux sont suffisamment éco-responsables ou et finis pour entrer dans la matériothèque?
Alors, donc la première, en fait, c'est ce qu'on demande, c'est comment sont fabriqués les matériaux. Quand ils peuvent nous donner la recette, ils nous la donnent. Sinon, le plus important pour nous, c'est que la matière soit moins pire. Et ça va te faire penser au collectif moins pire. Je sais que tu as dit le coup de plume. L'idée, c'est que ça soit moins pire que ce qui se fait déjà. Et donc, c'est pour ça qu'on va aussi sourcer, par exemple, aussi des artisans, des artisans verriers qui vont créer des matériaux, mais ils vont utiliser des matériaux principalement recyclés, qui vont...
D'accord.
Des déchets de verre. Bah, là, pour nous, même s'ils utilisent beaucoup d'eau, c'est quand même mieux qu'un artisan qui va partir d'une matière neuve, entre guillemets, au départ.
Ok.
Et voilà, et donc ça m'amène justement aussi au fait qu'on ne présente pas que des matériaux, mais aussi des artisans qui ont des démarches éco-responsables dans leur
conception. Ok, intéressant. Ok, donc il n'y a pas forcément de cahier des charges. Je pense par exemple à tout ce qui va être notion d'ACV, donc d'analyse du cycle de vie. Ça, vous ne l'intégrez pas forcément, c'est plutôt un petit peu... pas au doigt mouillé, mais disons que c'est, comme tu le disais, la notion du moins pire qui rentre en jeu et vous ne vous bridez pas avec des cahiers des charges techniques, en fait.
Non, pas trop, parce que finalement, au niveau de la matière, bah, déjà, sauf si la personne nous dit, bien sûr, je source à Punta Cana et j'arrive, je ramène ma matière en France pour faire un matériau éco-responsable, effectivement, là, ça va pas fonctionner. Donc, non, c'est vrai que pour le moment, on se bride pas. En fait, c'est la marque ou les personnes pour qui on va travailler qui auront souvent leur propre code à respecter, leurs propres normes, en fonction de chaque groupe, mais surtout... donc quand je voulais dire que c'est moins pire donc pour la matière, mais en fait pour l'ACV, ce qui est important aussi, c'est la finalité, pourquoi on l'utilise. Parce que par exemple, là en ce moment, on est en train de faire une vitrine pour un joaillier à Paris. Bah, du coup, le fabricant, il est en région parisienne et c'est un fabricant qui avait déjà la matière chez lui, qui est Polygood en l'occurrence. Mais cette matière, elle vient de l'Est, d'Europe de l'Est. Enfin, c'est presque. Enfin, ils font un peu comme le pavé, avec des aspects de matière qui sont très différents. Donc,
ok.
Ils sont tous les deux très bien. Mais par exemple, voilà, on va travailler avec Samji. Ça s'appelle Atelier Samji. Je ne sais pas si tu connais.
Non,
donc
pas
Atelier
encore.
Samji travaille principalement avec des matériaux éco-responsables du type le pavé, Polygood.
Ok.
Et donc, ils savent très bien les manier, les utiliser. Et donc, avec eux, on est en train de faire une vitrine. Et dans ce cas, nous, ce qu'on va faire, c'est que bah, du coup, on ne va pas produire en Bretagne ou à Nantes quand il s'agit de faire une vitrine à Paris, déjà. Et en fait, okay. C'est aussi ça qui va rentrer dans la CV du projet final, finalement, parce qu'il okay. y a le matériau, mais il y a aussi le après.
Très bien, je comprends.
Et la finalité, et jusqu'au moment où est-ce que c'est du permanent ou de l'éphémère.
C'est ça.
Parce que si ensuite, il y a de l'éphémère, par qui il est récupéré, comment il sera réemployé ou pas, etc.
Et alors, justement, je rebondis là-dessus, parce que comment vous intervenez dans cette logique-là? On peut imaginer que vous intervenez sur l'après. Est-ce qu'il y a une piste d'évolution pour les matériothécaires sur, par exemple, je ne sais pas, que vous deveniez une sorte de ressourcerie de réemploi d'un groupe à un autre, d'un client à un autre?
Alors, comment ça se passe? Il existe déjà des gens qui font ça.
Okay.
Et par exemple, pour les scénographies, donc là, c'est dans le cadre de l'agence Atelier Léonard. On faisait des scénographies à Paris, on faisait la désinstallation par la Réserve des Arts qui est à Pantin.
Okay.
Et ensuite, eux, ils s'occupaient, donc nous, on payait le transport et la manutention. Et ensuite, eux, ils s'occupaient de démanteler et de remettre en circuit la scénographie.
D'accord.
Et après, des acteurs comme ça, je pourrais t'en donner d'autres, j'ai pas les noms en tête, mais justement, pour ton podcast, ça peut être intéressant. Il y en a de plus en plus.
Ok, top.
Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Et après, on a certaines marques, donc ça, on le demande à tous, est-ce qu'ils sont capables de recycler leurs propres matériaux? Et en fait, la plupart, en fait, oui. Franchement, à 70%.
D'accord.
La seule chose qui est un peu plus compliquée pour les marques, c'est qu'en fait, il faut déjà, mettons, ils sont distribués dans tous les marionneaux de France, c'est de réussir à récupérer tout ça. C'est plus facile quand il s'agit d'une scénographie, d'un pop-up store ou d'une vitrine dans Paris ou dans Nantes qu'on
oui.
peut facilement récupérer. Mais en tout cas, il faut leur envoyer. C'est pas eux qui s'occupent du transport.
Ça marche, très bien, intéressant. Et alors, est-ce que tu peux nous citer justement, tu nous en as déjà cité quelques-unes, mais nous citer quelques marques ou matériaux assez connus que vous utilisez au sein des matériothécaires et peut-être d'autres marques moins connues, encore en cours de découvrabilité, entre guillemets, qui pourraient être intéressantes de connaître.
Alors, on peut parler de Guylaine, que c'est un matériau que j'adore, qu'on n'a pas encore réussi à utiliser, mais je pense que ça ne saurait tarder.
Challenge.
Qui est un matériau... Ouais. Enfin, on essaye au fur et à mesure, de toute façon, ça va finir par être beaucoup plus courant. Hein. Mm-hmm. Qui est un matériau, en fait, qui est réalisé en sédiments marins. Donc, ça prend un peu l'aspect d'argile. Et ils ont créé une palette de couleurs qui est vraiment très très intéressante et qui est très profonde et subtile, qui correspond vraiment au code du luxe.
Super.
Et avec eux aussi, on peut développer plusieurs teintes, donc c'est vraiment super intéressant et très beau. Après, il y a des marques qui sont beaucoup plus connues, hein, comme Mania ou Brokis Glass qui recyclent du verre. Donc, Brokis Glass, ils font des luminaires, je ne sais pas si tu connais.
Je
crois. Ils font des luminaires et en fait, la chute de leur fabrication de luminaires, ils les utilisent pour créer des matériaux, un matériau vert à partir de leur chute. Et c'est pareil, c'est vraiment c'est un matériau vraiment très haut de gamme, hein, qui est magnifique. En matériau en cuir, c'est assez difficile de trouver des matériaux souples, hein, quand même. Matériaux, les alternatives au tissu, c'est un peu plus difficile.
Okay.
Mais on a des matériaux type Poreva, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui recycle du cuir, et dont du cuir de maisons de haute couture qui sont dans les... Enfin, ils recyclent leur chute, ils sont broyés, et ensuite ça crée une matière qui a plusieurs propriétés qu'on peut utiliser pour... de l'acoustique par exemple dans tous les bureaux, et nous du coup là on est en train de travailler avec eux parce qu'on trouve que cette matière elle a des belles propriétés pour développer une gamme de merchandising dédiée à la joaillerie, parce que justement on est sur un matériau qui est souple et doux, qui pourrait être une alternative au merchandising actuel où on fait du gainage de matière sur une autre matière, etc. Alors que là on peut faire éventuellement, là on est en train de travailler dessus avec eux. Ça c'est vraiment intéressant aussi. Et après il y a plein d'alternatives, par exemple à le pavé. Donc le pavé, ils peuvent faire du sur mesure le pavé. C'est hyper intéressant ce qu'ils font. Ils développent de plus en plus aussi de nouveaux aspects de matière. Et ils sont capables de créer des matières sur mesure, en tout cas des coloris sur mesure, à partir d'une certaine quantité qui est celle d'une cuve. Donc là, c'est plutôt dédié aux marques qui vont faire du volume. Et après, on a des alternatives à le pavé qui sont plus des plus petites entreprises à l'échelle, enfin, qui sont plus artisans aussi, et qui vont créer, qui sont plus flexibles, qui vont pouvoir correspondre à des marques qui sont peut-être plus petites s'ils veulent du sur-mesure, qu'ils pourront créer à la plaque.
D'accord.
Donc ça, c'est pas mal. Donc du type Panopoly ou Nomor, qui sont dans la région nantaise. Et après, je pense que tu connais Malakio.
Oui, tout à fait, oui. Malakio, Austria.
Ouais, voilà, c'est un très bon exemple, Malakio et Austria, parce qu'ils partent du même gisement, qui sont les coquillages qu'on mange. Mais par contre, ils n'ont pas du tout la même approche. Austria, ils sont sur la fabrication industrielle et ils vendent des plaques, donc avec différents coloris. Mais c'est pareil, on est sur quelque chose qui est un peu plus industriel et qui va correspondre peut-être davantage à l'architecture intérieure et à l'architecture.
Oui.
Ou au mobilier. Et Malakio, ils sont plus sur une approche vraiment low-tech. Ils sont à la fois fabricants de matière, mais aussi artisans. Et donc, ce qui est génial aussi avec Malakio, c'est qu'on va pouvoir produire des objets, produire, par exemple, de la PLV. On a déjà travaillé avec eux pour travailler sur des packagings de cosmétiques. Et eux, ils vont avoir une grande flexibilité parce qu'ils vont... ils savent faire des moules, ils sont très flexibles et ils savent faire des objets. Donc, ils ont une partie qu'ils éditent et ensuite, ils répondent surtout à des demandes B2B sur la création d'objets. Notamment, ils ont fait ils ont travaillé avec pour Diptyque, ils peuvent faire de la série, etc. Mais eux, ils sont vraiment low-tech, ils font du séchage, ils n'ont pas de séchoir, ils sèchent à l'air libre.
Intéressant.
Donc, c'est hyper intéressant, ouais. Si un jour tu viens à Nantes, je te ferai faire un tour de tout ça.
Avec grand plaisir, un petit tour de toutes ces innovations, ça pourrait être super. Et tu travailles par exemple avec Valterio, qui justement est à la source de nouveaux produits aussi?
Alors oui, on les a sourcés et on les connaît. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast il y a quelques jours, elle était vraiment super intéressant. Je me souvenais pas qu'on y parlait du tout début de l'histoire. Et ils sont vraiment intéressants aussi, leurs matériaux. Après, on n'est pas du tout sur les mêmes aspects de matière. Ils sont un peu plus brillants. Et ça, voilà, sur certaines marques, ça va plus correspondre que pour d'autres. Et on peut avoir des aspects qui sont un peu similaires à d'autres marques. Voilà, on n'a pas encore réussi à les placer quelque part, mais ça va finir par arriver aussi. Donc, on présente voilà, vraiment tout le monde. Pour donner un exemple, par exemple, si une agence elle vient en disant on a déjà dessiné la PLV, et on aimerait bien quelque chose de minéral. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Nous, en fait, si on a ce qu'il faut dans la matériothèque, on va présenter différents matériaux qu'on a chez nous. Mais on va aussi faire une nouvelle recherche pour voir si on n'a pas raté quelque chose aussi dans notre veille. Et on va leur présenter en fait les matériaux, les échantillons. Et ensuite, ils vont pouvoir choisir en fonction des informations comme ce qu'on vient de te donner en fait entre la différence entre Malachio et Austria, parce que il y a vraiment une différence là. Si on passe par Malachio, ils vont pouvoir fabriquer l'objet. Si on passe par Austria, on va devoir acheter les plaques puis fabriquer avec quelqu'un d'autre. Tu vois, on n'est pas et on n'est pas sur les mêmes approches, on est tout à fait sur les mêmes aspects de matière, mais ça du coup ça c'est ce que nous on peut apporter aussi, faire gagner du temps aux gens parce qu'on les a déjà rencontrés, parce qu'on connaît la méthode de fabrication, parce qu'on est du métier de ce métier et qu'on connaît les contraintes, et du coup on va pouvoir orienter comme ça et faire gagner beaucoup de temps aux designers mais aussi aux achats, etc., sur le choix de tel ou tel matériau.
Ok, super intéressant. Et alors une petite question pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir à toi et bien sûr aux matériaux Tecker? Quelles sont peut-être les choses encore un peu en carton que tu souhaiterais développer et partager avec nous? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Déjà, que j'espère que ton podcast sera bien écouté et que tout le monde aura bien compris notre travail. J'aimerais beaucoup qu'on collabore avec le maximum de groupes en fait sur la recherche et développement autour de ces matériaux, parce que ce sont des grands acteurs qui ont les moyens justement d'investir et finalement de faire grandir tous ces matériaux. Parce que voilà, faut pas se mentir, il y a plein de gens qui aimeraient bien, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, de financer de la R&D, etc. Donc j'espère que voilà, il y aura des gens qui nous écoutent, qui se diront mais c'est sûr que ce serait génial qu'on développe quelques matériaux pour notre groupe et du coup qui feront grandir ces entreprises et leur permettront en fait de vivre. Parce qu'entre nous, il y en a plein là-dedans dans les matériaux qu'on a qui vont pas. Qui n'ont pas réussi à maintenir l'activité parce qu'il n'y a pas suffisamment de commandes.
Oui, en fait, ça, c'est vraiment dommage.
Qu'on passe un beau cercle vertueux et que, oui. Et que tout le monde s'implique. Et après, la deuxième chose, ça serait que les formations qu'on commence à mettre en place, la première, elle sera à Nantes, donc sur les matériaux éco-responsables, de faire un état des lieux de tout ce qu'on a dans les matériothèques et les perspectives avec les matériaux naissants. Soit un succès. On aimerait vraiment que le plus de monde possible puisse accéder à ces informations pour justement faire grandir aussi toutes ces marques.
Et justement, à qui est dédiée cette formation? Est-ce que c'est principalement aux
retailers? Alors, elle est dédiée à tous les gens qui... oui, tout ce qui est retailer, designer, toutes les personnes qui sont autour des métiers du retail, qui ne sont pas nécessairement créatifs, mais qui ont en tout cas un pouvoir de décision aussi sur les matériaux. Les architectes d'intérieur, mais aussi toutes les personnes qui sont responsables RSE dans les marques.
Super.
Voilà. Et puis bien sûr, toutes les personnes que ça intéresse en plus, quoi. Et la troisième chose, donc dans le futur, j'aimerais beaucoup donner plus d'accès aux matériaux éco-responsables aux particuliers, parce que actuellement, on se rend compte que c'est pas si facile que ça pour un particulier. Si quelqu'un est intéressé de faire un projet chez soi, il doit passer par un architecte d'intérieur qui sera, on va dire, plus en veille et forcément en proposition, etc., et qui sera qui aura le courage de faire toutes les démarches pour découvrir les matériaux, demander la plaque à la bonne taille, etc. Donc j'aimerais beaucoup réussir à justement faciliter l'accès à ces matériaux-là aux particuliers avec peut-être un point de vente ou quelque chose qui va permettre de leur donner l'accès sans forcément passer par un spécialiste designer, architecte d'intérieur.
Top.
Qui ait des alternatives aussi au quotidien.
Ouais, super. Chouette projet. J'ai hâte de suivre tout ça. C'est une belle aventure, en tout cas. Bravo pour ça.
Merci beaucoup. Je te félicite aussi pour tout le travail que tu fais, parce que du coup, j'ai tout écouté et c'est vraiment très intéressant. Et notamment, les premiers podcasts, j'ai trouvé toute ta démarche vraiment inspirante.
Eh bien, un grand merci.
Un grand merci. Je vais me mettre à lire ton livre aussi.
Oui, c'est un peu décorrélé, mais ça touche toujours au sujet de la responsabilité.
Et oui, c'est ça. Mais surtout, t'es hyper active, c'est bien.
Ben, merci beaucoup, Morgane. Merci pour ta présence, pour ce petit bouquet de fleurs aussi en fin d'épisode. Et puis, je te souhaite en tout cas une belle continuation avec les matériaux techers, de continuer de développer tout ça. Bravo, et j'ai hâte de suivre tes futures aventures. Je me tiendrai au courant.
Merci beaucoup. Merci.
À très bientôt.
Merci pour elle. À bientôt.
Ciao.
Et voilà les Greeners, l'épisode touche à sa fin. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de belles choses et surtout que cela vous a inspiré à imaginer comment faire mieux si vous êtes du milieu du retail design mais aussi dans l'aménagement d'espace à plus longue durée, appelons-les comme ça. Et je vous invite bien entendu à explorer les liens présents dans la description de l'épisode pour en savoir plus sur Morgane et sur les matériaux techers. Et bien entendu, et comme toujours, à partager, à liker et à vous abonner à l'épisode et au podcast pour que la démarche prenne sens et qu'un maximum de professionnels nous rejoignent. À très vite !